Heure locale, le podcast qui entre dans l'univers d'un correspondant international de la RTS, la radio-télévision suisse. Je suis Francesca Argerofo et aujourd'hui on appelle Jordan Davis, notre correspondant à Washington.
Bonjour, bonjour.
Salut Jordan.
Salut Francesca.
Comment vas-tu?
Heure locale, un podcast de la RTS.
Bien, bien, bien. Tout va bien.
Tu m'entends bien?
La nuit fut courte, mais tout va bien.
On va en parler. Quel temps fait-il de l'autre côté de l'Atlantique?
Alors, ici à Washington, je pense qu'il va peut-être frôler les 20 degrés. En tout cas, là, je suis sorti tout à l'heure pour chercher le journal qui arrive chez moi tous les matins. Et là, en fait, il y a déjà les jonquilles qui sont sortis. C'est déjà le printemps ici depuis un petit moment.
C'est ce que tu vois depuis ta fenêtre, les arbres qui sont en train de fleurir, parce que tu habites dans une zone résidentielle de Washington. Hein.
Oui, je vis dans un quartier qui s'appelle Capitol Hill. Je suis à 10 pâtés de maison du Capitole. Ici, c'est beaucoup de maisons en briques qui sont collées les unes aux autres, les townhouses, comme on les appelle. Donc, c'est calme. C'est relativement urbain tout de même. J'ai le métro à côté. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de commerces à proximité à pied, ce qui est assez rare. C'est un luxe aux États-Unis, finalement. Je n'ai même pas de voiture, pour tout dire.
Ça fait combien de temps que tu es correspondant à Washington?
Ça fait maintenant, ça fera bientôt 3 ans. C'est fou comme le temps file. En fait, c'était juillet 2021, c'est-à-dire le 5 juillet 2021. Je suis arrivé au lendemain de la fête nationale, le 4 juillet.
Oui, et tu es arrivé quelques mois après l'assaut du Capitole qui a eu lieu le 6 janvier 2021. C'était une ambiance quand même très particulière, même quelques mois après.
Absolument. Et puis j'avais été envoyé spécial même juste immédiatement après l'attaque au Capitole. J'ai sauté dans l'avion. On avait fait une émission en direct en Suisse et puis j'ai sauté dans l'avion pour revenir ici. Pour ça, là, l'ambiance était vraiment très étrange. Il y avait des soldats partout. C'était très particulier. Mais effectivement, il y avait une ambiance. Enfin, le Capitole était encore enfermé avec une sorte de grillage noir, c'était très très moche. Le pays était aussi un peu, toujours un peu en mode Covid, on va dire aussi, et ça avait duré très 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 longtemps. Les mesures sanitaires et tout ça, dans les esprits des gens, donc tout était un peu étrange quand je suis arrivé. C'était pas, ça vivait pas vraiment de la même manière qu'en Europe. Ça, j'ai ressenti très fortement.
Ces tensions, Jordan, est-ce qu'elles subsistent encore? Est-ce qu'elles se sont atténuées?
Je pense que les tensions sous-jacentes ne sont pas fondamentalement dissipées. Ce qui a changé, c'est très franchement Donald Trump à la présidence. Il y avait un degré de tension dans le pays pendant cette présidence. Tout le monde ne pouvait penser qu'à parler de Donald Trump. Tout le monde pensait à ça. Il était omniprésent. La présidence de Joe Biden, qui est critiquable, certes, sur d'autres plans, mais en tout cas, en termes d'un président moins omniprésent, alors là, je pense que le contrat a été respecté. Il est beaucoup moins dans l'actualité. Et finalement, il y a beaucoup moins de choses qui enflamment l'opinion publique en ce moment. Donc, le pays est plus apaisé aujourd'hui. Je pense que ça, c'est clair.
Alors, c'est un pays que tu as parcouru en long, en large, hein, parce que je rappelle que tu fabriques aussi un podcast qui est appelé Democracy. Democracy, tu nous racontes un peu l'Amérique que tu observes, les changements dans cette grande démocratie, la polarisation de la société américaine, hein, on l'a dit, ces tensions. C'était bien vu ce titre. Qu'est-ce que tu as observé au plus près du terrain? Je rappelle que tu as fait plus de 40 épisodes hein, de Democracy.
Bientôt 50 même, Francesca.
Bientôt. Absolument. 50. J'en ai loupé quelques-uns.
Et le titre, en fait, finalement, c'était Eric Guevara-Frey qui m'a donné cette idée.
Eric Guevara-Frey, donc un des producteurs de Tout un Monde.
De Tout un Monde, exactement. Et donc, je m'en souviens, c'était au bureau, il m'a dit, tout bêtement, Democracy. Et c'était la question de base, c'était est-ce que la démocratie américaine va survivre? C'est là qu'on en était au début de mon mandat. Il y avait beaucoup de tensions sur pas mal de plans, sur le plan institutionnel aussi. Et puis, fondamentalement, est-ce que les Américains ont envie de vivre les uns avec les autres? Enfin, la démocratie, c'est un choix. C'est un choix de vivre en société. C'est un choix d'accepter une défaite. C'est un choix d'accepter qu'on soit gouverné par des gens avec qui on n'est pas d'accord. Aux États-Unis, ce n'est pas très, très sûr, et encore aujourd'hui, que les gens soient prêts à accepter ça. Enfin, en tout cas, pas tous. Donc, c'était ça l'idée. Et c'était aussi un moyen de raconter ce qui se passe dans le pays, parce que la démocratie, vraiment au sens large, c'est ça, fondamentalement, un choix de société. Je fais ça en parallèle, beaucoup de mon travail pour l'antenne, mais ça a une manière d'aller plus loin, une manière de... Ah, parfois j'ai des choses que j'ai envie de raconter qu'on peut pas mettre à l'antenne parce que à l'antenne, bah on est une chaîne généraliste, on va pas non plus passer 10 heures à parler des États-Unis et des détails des États-Unis, mais c'est chouette d'avoir cet espace-là.
Mmh. Et puis on l'a dit, hein, donc tu es près du terrain, tu vas rencontrer beaucoup de monde. Tu es aussi un adepte du son, du reportage. T'aimes nous laisser entendre les Américains avec leurs accents, leur façon de parler, leurs expressions. Pourquoi c'est si important pour toi ?
Je pense que ça donne une couleur. Je pense que les gens peuvent aussi se projeter dans ça. Je pense aussi que beaucoup de nos auditeurs, que ce soit pour le podcast ou même à la radio en Suisse surtout, parlent anglais, comprennent l'anglais. J'aime bien mettre ça parce que ça permet aussi des gens de s'accrocher. Ça donne effectivement, comme tu dis, la couleur du pays. J'aime bien donner l'idée de voyager à des gens. Enfin, quand moi j'étais petit, ici aux États-Unis, j'écoutais beaucoup la radio publique NPR et j'avais toujours l'impression de voyager. J'avais cette sensation d'être dans la voiture avec mon père en sillonnant Los Angeles pour aller à l'école. Et j'étais ailleurs dans ma tête. Et je pense que j'ai toujours envie de recréer ça maintenant quand je fais de la radio, 30 ans plus tard.
T'as l'impression que ça donne à comprendre un pays aussi dans ses subtilités.
Absolument. Absolument. Ça, parce que parfois, il y a quelque chose qui passe dans le, qu'on peut pas expliciter, mais dans le ressenti. Et c'est ça, pour moi, le son. La radio ou le podcast, ça transmet des informations, un ressenti. On a l'impression d'avoir été là. Et c'est ça le vrai pouvoir, je pense, de la radio. C'est une information aussi.
Alors là, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. On t'a beaucoup entendu sur les affaires judiciaires de Trump, sur les primaires républicaines, démocrates, tout dernièrement sur le discours de l'État de l'Union. C'est assez intense une année électorale, non ?
C'est assez intense parce qu'effectivement, il y a beaucoup de rendez-vous de campagne. Il y aura forcément plus de tension parce que voilà, c'est un choix très important qui attend les Américains en novembre. Les gens qui ne suivent pas l'actualité tous les jours se disent « Ah oui, c'est peut-être Donald Trump qui va revenir. Est-ce que ça va être encore Joe Biden pendant 4 ans ?» Il est quand même vieux. Les gens commencent à se poser des questions. Les gens sont intéressés. Et puis, c'est le moment d'expliquer ce qui se passe dans le pays. Et c'est ce que j'adore aussi. Je suis fasciné de savoir pourquoi les gens vont faire le choix qu'ils vont faire. Alors, je n'ai pas une boîte de sondage dans ma cave ici, mais au moins, on peut s'appuyer sur les sondages qui existent, on peut parler avec les gens, on peut comprendre un peu ce qui se passe dans la tête des gens. Et pour moi, ça, c'est très riche. Et c'est ça qu'on va faire, que moi, je vais faire en tout cas pour une bonne partie de l'année. C'est vraiment de creuser cette question. Qu'est-ce qui va rentrer dans la décision des Américains, dans les décisions des Américains, parce que parfois, ils font des allers-retours. Et c'est ça ce qui est fascinant à raconter en une année électorale. Et c'est peut-être ça le travail le plus gros. Outre toutes les questions d'actualité qui peuvent survenir, la couverture de l'actualité va être intense et puis on ne sait pas ce qui pourrait se passer. On refait rendez-vous en décembre, on fera le débriefing.
Alors tu l'as dit, il y a beaucoup de demandes de la rédaction et on se demande tous, tu dors quand ? Tu envoies des messages à 3h du matin, tu es très souvent en direct dans tout un monde à 8h10, donc au milieu de la nuit pour toi. Donc est-ce qu'il t'arrive de dormir quand même ?
J'ai une vie très éclatée, effectivement. Enfin, bon, Francesca, nous avons travaillé pendant longtemps, voilà.
Oui, 4 ans ensemble.
Donc tu me connais presque mieux que quiconque dans cette rédaction. Je n'ai pas une vie, enfin, je n'ai pas d'enfants, je n'ai rien ici qui me fixe un cadre où je vais emmener les enfants à l'école ou quelque chose comme ça. Donc c'est vrai, moi j'aime bien être en direct pour certains rendez-vous quand ça a un sens ou quand c'est une grande actualité. Donc mais bon, avec le décalage horaire, ça veut dire que le journal du matin ou tout un monde, c'est à 1h du matin, 2h du matin. Et puis, je suis de nature assez couche-tard. Donc, c'est vrai, j'ai tendance à me réveiller peut-être plus tard que la plupart des gens. J'ai une journée un peu décalée comme ça. mais finalement, on a une journée tout le temps décalée ici parce que Après, il y a Forum et
Théorie. Forum à 18h chez nous, effectivement.
Forum à 18h en Suisse, exactement. Donc là, c'est au milieu de la journée ici. Et ensuite, il faut penser à la matinale, parce que vers 20h, 21h, on a un point avec le producteur des journaux du matin. Ça fait une journée un peu où on essaie de trouver des créneaux et on ne vit pas du tout au rythme habituel des Américains ici, ni des Suisses. Donc c'est vrai, on est en décalage horaire permanent. En tout cas, moi, je le suis d'autant plus que finalement, je vis au rythme de la RTS ici.
Alors, on l'a dit, tu t'adresses à un public suisse. Et en Suisse, on parle pas mal des États-Unis. On pense bien connaître ce pays, d'ailleurs. On s'y intéresse beaucoup. On sait aussi que ce qui se passe aux États-Unis a une influence sur nous. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a parfois un décalage entre notre perception ici et la vie, la réalité là-bas ?
Alors, je pense qu'en Europe, où les sociétés ne sont pas... Je pense à la Suisse, je pense à mes amis en France ou en Allemagne, où l'idée de voter pour un parti, par exemple, ce n'est pas le seul élément déterminant des relations sociales, comme c'est le cas aux États-Unis aujourd'hui. Il y a une telle polarisation dans la société... que voilà, on vit dans des bulles monopartisanes, la plupart des gens. Même si les gens vivent dans un État, on parle toujours des États bleus, donc qui votent démocrates, des États rouges, qui votent républicains. Mais même à l'intérieur d'un État bleu, entre guillemets, un État démocrate, il y aura des poches. Tout est très fragmenté en termes d'éducation. Il y a une séparation géographique de plus en plus des partis. Donc les gens vivent dans des bulles. Et je ne parle pas des autres clivages dans la société ou les divisions telles que ces questions raciales qui sont assez fondamentales, surtout vis-à-vis des Noirs aux États-Unis. Ça, c'est une question qui remonte à il y a 400 ans maintenant, avec l'esclavage et tout ça, et ces divisions-là qui n'ont pas disparu et qui continuent d'informer un peu de la manière dont les Américains vivent. Et je pense qu'en Europe, on ne se rend pas compte de ces divisions-là, de cette atomisation, en quelque sorte, de la société américaine. Le fait que les Américains aussi ont peu d'égards pour le reste du monde. Les campagnes présidentielles ici n'ont juste rien à cirer, pour parler très franchement, des médias étrangers. Il faut jouer des coudes, sinon passer pour un militant, pour entrer dans certains meetings, dans beaucoup de meetings maintenant. Ça a changé en 10 ans, j'ai remarqué. C'est beaucoup plus difficile maintenant de couvrir des campagnes. Alors que, justement, ces politiciens-là vont avoir un impact énorme sur le destin du monde, surtout en Europe. On ne se rend pas compte à quel point c'est à la fois une société très polarisée, extrêmement polarisée, et une société aussi, fondamentalement, qui est un peu nombriliste aussi, finalement. En quittant l'aéroport d'Orlando, le train traverse les marécages de l'intérieur de l'État, direction l'océan Atlantique.
Les fauteuils sont en cuir, il y a des prises électriques un peu partout. J'en compte 4 pour 2 sièges.
Jordan Davis, vous êtes à Washington où il est plus d'une heure du matin et vous suivez pour nous ces résultats.
Oui, le boulevard vers l'investiture se confirme pour Donald Trump. Nikki Haley l'emporte certes dans le Vermont, mais l'ancien président amasse des marques. Kitty m'emmène dans le parc qu'elle fréquentait quand elle était petite.
J'emmenais Allison ici quand elle était fille. Tout le monde pensait que c'était une fille. Et tu sais quoi ? En fait, ils avaient raison et c'est moi qui avais tort. Et elle me répond, « Ah, mais j'ai juste dit ça parce que je sais combien tu aimes avoir raison. »
Le mur, on le voit depuis des kilomètres. Il se dresse au-dessus des champs de coton et de salade, un rideau rouillé qui cache le fleuve Colorado et le Mexique pendant des kilomètres et des kilomètres.
C'est pas vraiment un mur, en fait, c'est des lattes métalliques.
Les lattes sont suffisamment espacées pour y passer son bras. Un mur imposant, impénétrable et en même temps contournable.
Alors tu l'as évoqué Jordan, hein, mais ta particularité c'est que tu es d'abord américain. On l'a dit, t'es né à Los Angeles.
D'abord parce que je l'étais avant d'être suisse, effectivement.
Exact, j'allais le dire. Tu as étudié, travaillé aux États-Unis avant de venir, habite en Suisse. Près de 15 ans en Suisse, t'as le passeport suisse. Qu'est-ce que ça t'a fait de retourner habiter de l'autre côté de l'Atlantique, d'aller habiter aux États-Unis ?
Qu'est-ce que c'était bizarre. Oui, là, c'était, c'est vrai, je m'étais construit professionnellement en Europe, même avant d'être en Suisse. Enfin, voilà, c'était très bizarre de revenir. Parce que évidemment, j'avais été aux États-Unis entre temps, mais en vacances pour rendre visite des amis, la famille. Mais c'est vrai, de vivre ici, de me remettre dans la mentalité américaine, ça a été un peu un choc.
C'est quoi ? C'est à la fois un sentiment de familiarité, d'étrangeté, les deux à la fois.
Ah, c'est familier, c'est-à-dire que l'américain, le consumérisme américain, c'est dingue, et c'est vrai, c'est difficile d'expliquer ça, parce que c'est une mentalité du tout jetable, de plein de choses comme ça, en fait. En Europe, on sait qu'on a des limites, on sait qu'on a un espace limité, on sait qu'on, surtout en Suisse, on sait qu'on a un espace limité, il y a la conception des ressources qui sont limitées, même si, des gens peuvent dénoncer, les modes de vie du tout jetable en Europe, mais enfin, je suis frappé ici par combien tout est jetable ici. Des trucs comme ça qui m'ont absolument dingue.
Mais que tu ne voyais pas avant.
Non, c'était vraiment en revenant, je me suis rendu compte qu'effectivement, et puis paradoxalement, en retournant en Europe, je me souviens la première fois que je suis retourné après je sais pas, 6 mois ici, et j'ai atterri à l'aéroport de Munich et je suis allé prendre un café. Bon, déjà, le fait de parler une autre langue que l'anglais dans la vie quotidienne, c'était sympa. Mais de me retrouver avec une tasse en céramique, en porcelaine, à l'aéroport, ce qui est juste, on ne trouve jamais. Ici, tout est en papier. Tous les cafés, je bois du café en gobelet, en papier, avec le couvercle en plastique. Mais tous les jours ici, je trouve ça un peu triste. Ça, c'est anecdotique, mais ça raconte un peu cette société américaine qui consomme énormément, qui jette énormément. Ça me choque. Ça continue à me choquer. Ça me choque un peu moins parce que maintenant je suis habitué après 3 ans. Le fait de ne pas avoir de voiture, je suis l'un des rares quand même à ne pas avoir de voiture. J'ai accès à des voitures quand j'en ai besoin parce qu'il y a des choses qui sont juste impossibles à faire sans voiture. Mais c'est vrai, ce genre de choix, il y a peu d'Américains qui fassent ce choix-là. Les Américains qui prennent leur voiture pour faire 3 pâtés de maison, ça me sidère toujours. Et ces différences-là, et puis, dans les relations des gens, c'est vrai, c'est pas la même chose qu'en Suisse. Les gens ont des relations très, enfin, des amitiés ici. Le mot est balancé comme ça. Ami est un mot fort en français, en tout cas. Et ici, ça l'est moins. Cela dit, j'ai tissé des relations absolument superbes avec mes voisins. J'ai des voisins incroyables.
Tu t'es fait des nouveaux amis.
Des nouveaux amis, effectivement. Je me suis fait des nouveaux amis américains tout de même, mes voisins, j'ai aussi d'autres amis américains. J'ai retrouvé des amis ici que je n'avais pas vus depuis longtemps. Donc ça, c'est chouette. Ça m'a aussi permis de comprendre aussi, j'ai mes voisins qui ont par exemple 30 ans, enfin la petite trentaine, et c'est fascinant de voir le monde à travers leurs yeux parce que moi, j'ai une petite quarantaine maintenant et c'est vrai, ces 10 ans ont beaucoup changé. Ceux qui ont évolué dans l'Amérique de ces 10-15 dernières années ont un regard différent aussi sur les États-Unis. Une Amérique voilà, où il y a beaucoup plus de pessimisme par rapport à l'avenir, le rêve américain, tout ça. C'est une génération qui a beaucoup moins d'incertitudes que n'avaient mes parents. Et ça, c'est fascinant à observer.
Ça t'apporte aussi une certaine richesse, hein, ce double regard, ce regard à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Pour ton travail, c'est quand même quelque chose de précieux et d'unique. Tu as de la famille partout, dans l'Ohio, en Californie, à Washington. Ça aussi, c'est des ressources précieuses, on va dire.
Je suis à 4 pâtés de maison de l'une de mes tantes, ici à Washington. Je suis dans un quartier, en fait, j'ai grandi en venant à Washington, très souvent, parce que j'avais une et puis 2 tantes ici. Et c'était dans le quartier même où je vis en ce moment, que je venais très souvent. Mes tantes et mon oncle sont très implantés ici depuis très très longtemps. Ils sont très actifs aussi dans la politique locale, dans les associations, dans les trucs. Enfin, je me suis retrouvé par hasard, j'ai fini par avoir le même coiffeur que ma tante. Ce qui, bon, j'avais pas forcément envie d'avoir une coiffure d'une femme d'une septantaine d'années, mais voilà, c'est rigolo. Donc en fait, c'est un côté très familier ici tout de même, parce que c'est un quartier que je connais depuis toujours. J'ai grandi à Los Angeles, en ville, avec la vue sur le Hollywood Sign et tout, mais il y avait quelque chose d'un peu rassurant aussi en venant ici. Et puis c'est cool aussi, c'est qu'effectivement, quand je suis en reportage, j'ai souvent des contacts dans ces villes, dans ces régions. Et c'est vraiment cool aussi de pouvoir prendre un café, de pouvoir dîner avec des gens avec qui je n'ai pas eu de contact depuis longtemps. Et de replonger un peu dans cette vie américaine, au gré des reportages, au gré de mes déplacements ici.
Quand tu te rentres en Suisse, tu te sens comment ? Chez toi ? C'est où chez toi ?
Je ne sais pas. En fait, j'ai une chance immense de me sentir chez moi quand je débarque à Genève. à l'aéroport, les accents, la manière de se comporter des gens, enfin tout ça, ça me paraît, c'est très familier parce qu'évidemment j'ai vécu 15 ans en Suisse avant de venir ici, mais je me sens aussi je me sens chez moi dans d'autres endroits, à Paris, à Berlin aussi, j'ai passé beaucoup de temps, je me sens chez moi à Los Angeles. Même si je pense que j'aurais pas envie d'y retourner vivre, mais je suis chez moi là-bas. C'est une ville que je connais les gens, je connais la ville, je connais tout là-bas. J'ai la chance de me sentir chez moi dans pas mal d'endroits où j'ai passé beaucoup de temps et où j'entretiens encore beaucoup de contacts avec les gens.
Mmh. Il est quelle heure chez toi, Jordan?
Il est 10h47.
Tu me le dis en anglais?
It's 10:47. No, now it's 10:48. L'heure vient tout juste de changer.
Tu as un accent en anglais? Les gens pensent que tu viens d'où?
Les gens savent que je suis américain. Bon, cela dit, les Américains, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, les Américains ne sont pas très ouverts sur le monde. Donc, moi, je me présente comme journaliste de la radio suisse parce que, fondamentalement, c'est mon identité ici. Je suis là pour la radio suisse. Je suis pas journaliste américain, entre guillemets. Mais les gens se posent rarement la question pourquoi ce journaliste suisse a un accent américain. Les gens prennent ça pour acquis, en fait.
Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu as dit que tu avais peu dormi, que tu avais encore beaucoup de boulot.
Voilà, c'est du boulot sympa où je dois un peu chercher des sujets. Je dois faire des déplacements un peu pour partir rencontrer la base démocrate, ceux qui vont voter Joe Biden, ou ceux qui devraient voter Joe Biden et peut-être ne vont pas forcément se déplacer aux urnes parce qu'ils sont découragés. C'est ceux-là que j'ai envie de rencontrer. Donc, je cherche un peu des occasions, des gens avec que je vais peut-être retrouver. Et c'est ça ce qui coule après 3 ans. On a des contacts, on a des gens qu'on a vus il y a 2-3 ans. On peut revenir, on peut retourner les retrouver pour voir où ils en sont 3 ans plus tard. Ça, c'est hyper riche, en fait, je trouve. C'est de retrouver des gens après un certain laps de temps.
Et on se réjouit de t'entendre, Jordan, sur nos ondes. On va t'entendre encore beaucoup, surtout cette année. Bonne journée à Washington. Et take care.
Oh, bonne journée. Thank you, Francesca. Thank you. Take care of yourself.
Ciao.
Ciao.
Washington, c'est fini. Heure Locale est un podcast produit par Tout un Monde, réalisé par Jean Berset. Notre attaché de production, c'est Adèle Tiguer. Dans un prochain épisode, nous irons voir à Tokyo Karine Nishimura. En attendant, parlez de ce podcast autour de vous. Il s'écoute sur Play RTS, Apple Podcast ou Spotify.